RCF.
La Bible a plusieurs voix. Vous entendrez aujourd'hui les voix de
Marie-Pierre Desfossés,
Jean-Luc Autrette,
Malou Lebars. Merci à Guilhem Thiénou à la technique. Bonjour à tous, bienvenue à la table de la parole. Aujourd'hui, nous ouvrons encore une fois notre livre de l'Ancien Testament au chapitre 14 de l'Exode. Et c'est donc la troisième émission que nous avons sur cette fameuse sortie d'Égypte, la traversée de la mer. Et dans une précédente émission, nous avions vu le début donc du chapitre 14 et nous en étions restés au moment où le Seigneur dit à Moïse « Mais qu'est-ce que tu as, toi ?» Et le peuple a crié vers moi, en fait, puisque les fils d'Israël, ils sont complètement affolés puisque les Égyptiens se sont mis à leur suite et donc ils ont peur. Et donc le Seigneur dit à Moïse, lève-toi, prends ton bâton, étends la main sur la mer et fends-la pour que les fils d'Israël pénètrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens. Voilà. Donc en fait, on avait déjà souligné cet aspect-là, que du côté de Pharaon, de ses chars, de sa cavalerie, c'est donc la logique d'un système qui ne compte que sur sa propre force. Et nous verrons face à eux ou devant eux, si on veut, bien les fils d'Israël qui vont avancer à pied sec à travers cette mer. Alors je vous propose d'entendre la lecture du passage qui va du verset 19 à la fin du chapitre 14.
L'ange de Dieu qui marchait en avant du camp d'Israël partit et passa sur leurs arrières. La colonne de nuée partit devant eux et se tint sur leurs arrières. Elle s'inséra entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Il y eut la nuée, mais aussi les ténèbres. Alors elle éclaira la nuit. Et l'on ne s'approcha pas l'un de l'autre de toute la nuit. Moïse étendit la main sur la mer. Le Seigneur refoula la mer toute la nuit par un vent d'est puissant et il mit la mer à sec. Les eaux se fendirent et les fils d'Israël pénétrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et pénétrèrent derrière eux. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers, jusqu'au milieu de la mer. Or, au cours de la veille du matin, depuis la colonne de feu et de nuée, le Seigneur observa le camp des Égyptiens et il mit le désordre dans le camp des Égyptiens. Il bloqua les roues de leurs chars et en rendit la conduite pénible. L'Égypte dit « Fuyons loin d'Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre l'Égypte. » Le Seigneur dit à Moïse, « Étends la main sur la mer, que les eaux reviennent sur l'Égypte, sur ses chars et ses cavaliers. » Moïse étendit la main sur la mer. À l'approche du matin, la mer revint à sa place habituelle, tandis que les Égyptiens fuyaient à sa rencontre. Et le Seigneur se débarrassa des Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et recouvrirent les chars et les cavaliers. de toutes les forces de Pharaon, qui avaient pénétré dans la mer derrière Israël, il ne resta personne. Mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Le Seigneur, en ce jour-là, sauva Israël de la main d'Égypte, et Israël vit l'Égypte morte sur le rivage de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur, il mit sa foi dans le Seigneur et en Moïse, son serviteur.
Voilà donc ce beau passage extraordinaire, hein, donc on voit bien la force de la faiblesse des fils d'Israël, mais puisque leur force est dans le Seigneur, hein, donc voilà, l'Égypte est morte. Bon, il faudra qu'on commente un petit peu ça quand même pour oui. se dire qu'est-ce que ça veut dire. Alors, je reviens au verset 19. Hein, donc, on nous dit que l'ange de Dieu marchait en avant du camp. Il passa sur leurs arrières. La colonne de fumée partit de devant eux et se tint sur leurs arrières. Elle s'inséra entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Il y eut la nuée, mais aussi les ténèbres. Alors, elle éclaira la nuit. Alors, ça peut sembler confus, ça, que finalement. C'est quoi cette colonne-là? C'est une colonne de nuée ou de feu, ou les deux à la fois? Comment vous envisagez les choses?
C'est effectivement un petit peu tout ça à la fois, sans doute, oui. En tout cas, ce qui la caractérise, c'est qu'elle illumine la nuit, oui. cette colonne de nuée. Donc, ça nous fait certainement penser à d'autres nuées qui sont intervenues déjà, ou qui interviennent à d'autres moments de la Bible, où cette nuée est particulière quand même. En fait, elle caractérise la présence du Seigneur Dieu, ou du moins le Seigneur Dieu à l'œuvre.
Puis elle est aussi, du coup, une protection pour le peuple. Protection parce qu'elle masque, justement, les fils d'Israël. Et puis, à la fois, elle les éclaire quand c'est nécessaire.
Donc, finalement, c'est une manière symbolique d'évoquer cette présence à travers l'ange de Dieu, hein, cette présence du soutien de Dieu. Hein, donc, deux colonnes ou plutôt une seule, mais qui n'est pas vue de la même façon selon que nous sommes la nuit ou le jour. Hein, donc, mais en tout cas, c'est très important parce que c'est ce qui permet de s'aventurer. C'est ce qui permet aux fils d'Israël de s'aventurer dans l'inconnu, et peut-être ben, ça nous parle aussi de ce qui peut nous amener à nous aventurer dans la vie, même si les circonstances peuvent sembler un peu difficiles ou périlleuses. Hein, voilà. Alors Moïse, verset 21, « Moïse étendit la main sur la mer, le Seigneur refoula la mer toute la nuit par un vent d'est puissant, et il mit la mer à sec. Les eaux se fendirent et les fils d'Israël pénétrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. » Voilà. Donc ça, c'est un peu l'image d'Épinal qu'on a avec les films aussi.
Oui, donc... complètement, j'allais dire hollywoodienne.
Voilà.
oui.
La muraille d'eau de chaque côté.
Oui, tout à fait. Donc, effectivement, c'est impressionnant. Je ne sais pas si c'est vraiment ça qui s'est passé, ou du moins... Si c'est comme ça qu'il faut voir les choses, une autre traduction pourrait nous laisser entendre que les eaux sont pour eux des remparts à leur droite et à leur gauche. C'est déjà, il y a une nuance déjà qui est introduite.
Oui, mais l'idée aussi que les eaux se sont fendues. Hein. Moïse a tendu la main sur la mer et il n'agit pas tout seul, puisque on nous dit que le Seigneur refoule la mer. Hein,
voilà. Oui, avec un vent d'est.
Ils sont deux à l'œuvre, finalement.
Oui, avec un vent d'est puissant.
C'est voilà. Ça, c'est la main de Moïse qui est là, ce qui agit de la part de Dieu.
Oui, voilà. Donc, et justement, lorsqu'on nous dit les eaux se fendirent, c'est très intéressant comme expression, des eaux qui se fendent.
Ça fait penser un peu à un accouchement. quelque part.
Une forme de déchirure.
Oui, il y a une déchirure qui se crée là. Ça fait penser aux os qui se libèrent en fait.
Pour que la matrice s'ouvre.
C'est la matrice s'ouvre exactement, Marie-Pierre.
Voilà. Voilà. Oui. Et nous avions dit aussi que c'était quand même un petit rappel aussi de la Genèse avec les os d'en haut et les os d'en bas qui sont séparés. Hein,
Tout à fait.
Voilà. Donc, et pour qu'il y ait de la vie, il faut qu'il y ait cette déchirure là. Il faut fendre la mer pour que il y ait une naissance possible. Hein, voilà. De même que déjà auparavant, on avait souligné ça, que les 10 plaies d'Égypte étaient faites pour frapper les Égyptiens, pour que l'Égypte accepte de laisser sortir d'elle. Hein, ce peuple des Hébreux, hein, voilà. Bon. Alors ici justement, on souligne les Égyptiens les poursuivent et pénètrent derrière eux. Alors à chaque fois qu'on a les Égyptiens, on a l'évocation avec de la force. Hein, tous les chevaux de Pharaon, ses chars, ses cavaliers.
C'est une épopée.
Mais voilà. Mais en même temps, on a souligné hein, que à partir du moment où on a insisté là-dessus, c'était la force, comme vous disiez tout à l'heure, Marie-Pierre, la force de la puissance du monde.
C'est ça, qui est toujours à l'œuvre et elle est manifestée ici par justement cette puissance combattante, parce que c'est quand même les chars, les cavaliers, c'est une force.
Oui, mais qui n'est pas du tout référée à Dieu.
Non.
Hein, cette force-là, elle est
humaine,
une force aveugle parce que c'est une force autosuffisante.
C'est ça, qui compte sur ses propres forces.
Voilà. Alors, donc, on continue. Verset 24. Or, au cours de la veille du matin, depuis la colonne de feu et de nuée, le Seigneur observa le camp des Égyptiens et il mit le désordre dans le camp des Égyptiens. Il bloqua les roues de leurs chars et en rendit la conduite pénible. Mmh. Ça, c'est intéressant aussi parce que finalement, les roues de leurs chars, les roues des chars, c'est ce qui permet à cette force aveugle de progresser.
D'avancer, oui.
Et là, on nous dit que le Seigneur intervient pour bloquer les roues des chars. C'est à la fois très concret.
C'est une image très forte aussi.
Oui, une image très forte, mais pour nous dire que tous ces rouages et ces mécanismes d'une force, d'une domination qui ne compte que sur elle-même, en fait, c'est du vent, quoi, aux yeux de Dieu, aux yeux du Seigneur. Tout ça, c'est un peu. Voilà. Et ça ne veut pas dire, hein, nous l'avons souligné maintes fois, que le Seigneur Dieu soit contre un pays au profit d'un autre. Ça veut dire que c'est une logique de violence, de domination, de force aveugle qui est mise à mal par le...
Oui, et qui est dans un aveuglement en plus, parce qu'en fait, on pouvait bien penser que pour aller s'enfoncer comme ça à travers la mer, on pouvait avoir un sol qui posait des problèmes. Et là, en fait, ils n'y pensent même plus. En fait, ils sont tellement dans cette espèce de déferlement qu'il n'y a plus du tout de raison même qui anime cette force.
Mais ils ont peur quand même, parce que verset 25, on nous dit, l'Égypte dit, fuyons loin d'Israël, car le Seigneur combat pour eux.
Alors voilà, ça c'est intéressant, cette prise de conscience à travers ce déchaînement de violence. Il y a quand même une prise de conscience qu'il y a quelque chose qui est à l'œuvre et qui va peut-être au-delà de leur propre puissance. En fait.
Le Seigneur dit à Moïse, étends la main sur la mer, que les eaux reviennent sur l'Égypte, sur ses chars et ses cavaliers. Moïse étendit la main sur la mer. À l'approche du matin, la mer revint à sa place habituelle, tandis que les Égyptiens fuyaient à sa rencontre. Et le Seigneur se débarrassa des Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et recouvrirent les chars et les cavaliers. De toutes les forces du Pharaon qui avaient pénétré dans la mer derrière Israël, il ne resta personne. Donc là, vous le voyez...
C'est un anéantissement complet de la force, de la domination de Pharaon, en fait, et de son armée.
En fait, elle ne pouvait être qu'engloutie, puisque ces forces-là, qui ne comptent que sur elles-mêmes, sont vouées à ça.
Oui, donc en fait, l'expression, on nous dit que là encore, c'est la main de Moïse qui en quelque sorte... Et la main qui agit, hein, puisque c'est le Seigneur à travers lui qui se débarrasse des Égyptiens au milieu de la mer. Hein, donc, Voilà. Et l'expression, elle est quand même radicale, puisqu'on dit qu'il ne resta personne de l'Égypte. Il ne resta personne. Hein. Et si je continue ce passage, on nous dit que les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Mmh. Pendant ce temps-là, les fils d'Israël avancent. Et à pied sec, ça dit un peu leur fragilité aussi. On a l'impression que eux, ils sont à pied.
Oui, avec pas beaucoup de moyens. Oui, oui.
Ils ne sont pas encombrés de tout un fatras de machinerie.
De matériel, de guerre notamment.
Et voilà. Donc,
les murailles signifient justement la puissance de Dieu et puis la protection, la solidité qui permet justement à leur fragilité d'avancer.
Oui, voilà. Mmh. Donc c'est quand ils sont fragiles. Qu'ils ne peuvent compter que sur la force du Seigneur, qu'un chemin peut s'ouvrir pour eux. Hein. Alors le verset 10, le Seigneur en ce jour-là sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit l'Égypte morte sur le rivage de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Alors c'est ça peut-être qui est un peu surprenant. On dit Israël vit l'Égypte morte.
Mais l'Égypte, finalement, ce n'est pas les Égyptiens, c'est une puissance matérielle.
Oui, comme
une puissante qu'on a vu tout à l'heure.
Oui, c'est ça. Donc, il n'est pas dit que...
Que ce sont les Égyptiens qui sont morts.
Voilà, donc Israël vit l'Égypte morte. C'est pas que les fils d'Israël voient tous les Égyptiens qui sont des cadavres sur la mer. C'est pas du tout comme ça. Donc Israël voit l'Égypte qui était la force qui la maintenait en esclavage, si on veut, qui l'empêchait d'être vivant. Hein, c'est Israël. Il fallait qu'Israël puisse naître, sortir de l'Égypte pour vivre dans la liberté. Israël voit que ce qui est sur le rivage, c'est l'Égypte. Voilà, tout ça qui l'enserrait, l'empêchait de s'épanouir. Mais peut-être qu'on pourrait presque imaginer, parce que tout à l'heure, Jean-Luc, vous parliez de naissance, on pourrait presque se dire aussi, pour garder l'image, que c'est comme si c'était le placenta, l'Égypte, voilà, l'immense placenta qui reste là
après l'accouchement,
sur le rivage, et que enfin, de cet accouchement est né ce peuple d'Israël. Alors, ce peuple d'Israël, on va dire les Hébreux. Or, les Hébreux, ça veut dire quoi? Le sens du mot hébreu. Eh bien, c'est ceux qui traversent. Les Hébreux, ce sont ceux qui traversent, ceux qui font le passage. Alors, je trouve que ça, c'est très important. Hein. Donc, et Israël, en passant la mer Rouge, est devenu le peuple des Hébreux, des traverseurs, des passeurs. Hein. Donc, voilà, ceux qui ont passé la mer. Donc, il n'y a pas que Moïse qui avait été tiré des eaux. Vous vous souvenez, hein, l'histoire de Moïse et du fait qu'il ait été recueilli par la fille de Pharaon. Moïse a été tiré des eaux. Israël, les fils d'Israël aussi ont été tirés des eaux. Et le peuple des Hébreux, c'est le peuple de la traversée, le peuple de ceux qui ont traversé. Alors, la finale de ce chapitre, c'est qu'on nous dit le peuple craignit le Seigneur, il mit sa foi dans le Seigneur et en Moïse, son serviteur. Peut-être qu'ils ont eu du mal quand même à mettre leur foi vraiment.
Oui, ils ont renaclé quand même à un certain moment. Donc, c'est vrai que ça n'a pas été si facile que ça de laisser tomber l'esclavage.
Oui, mais donc
là,
en fait...
Là, il y a quand même la reconnaissance de l'inouï, en fait, de l'action divine.
Oui, voilà.
À chaque fois, il craint le Seigneur.
À chaque fois, donc, c'est ça, le peuple récrimine. Et puis finalement, donc, il y a quelque chose dans son expérience qui en quelque sorte, l'oblige à reconnaître l'action divine. Je vous propose une petite interruption musicale. Voilà, nous sommes arrivés au bout de ce fameux chapitre de la sortie d'Égypte, ou plutôt de la traversée de la mer, hein, le chapitre 14 de l'Exode. Et peut-être qu'on peut passer un petit peu de temps à se dire que ce texte-là, il est quand même fondateur pour toute l'histoire des fils d'Israël.
Oui, 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 mais pas que pour les fils d'Israël d'ailleurs. Il est aussi fondateur pour les chrétiens, puisque c'est un texte qui est important, notamment dans la nuit de Pâques, puisqu'il est lu lors de la veillée pascale. Donc, c'est pas anodin, en fait, cette lecture et cette...
Oui, mais en même temps, si on revient un petit peu donc à l'histoire des fils d'Israël, l'histoire des Hébreux, c'est maintes fois... Dans tous les livres qui vont suivre, c'est maintes fois, et dans les psaumes, de multiples reprises, il sera fait référence à ce fameux passage, donc à la sortie de l'Égypte et à la traversée de la mer, comme expérience fondatrice pour le peuple d'Israël, que c'est le Seigneur qui les guide, c'est le Seigneur qui est leur force, et qu'ils ne peuvent pas compter sur leur propre force, mais que la force libératrice, elle vient du Seigneur, quoi. C'est lui qui les a libérés, hein. Donc à chaque fois, donc on va reprendre tous ces éléments. Alors peut-être que bah, justement, on peut évoquer aussi pour nous, comme vous disiez, Jean-Luc, bah, nos expériences peut-être de découragement, de manque d'espérance, et où tout semblait sans issue. Il y a peut-être dans nos vies effectivement des situations qui nous paraissent inextricables.
Oui, et puis comme vous le disiez, décourageantes. C'est-à-dire qu'en fait, on est aujourd'hui dans un monde extrêmement matérialiste où on a du mal en fait à faire confiance à autre chose qu'à notre propre technologie, à notre propre manière de gouverner, voire de manœuvrer un peu le monde dans lequel on vit. Et c'est vrai que, et comme vous le disiez, chacun dans nos propres vies, on est confronté à des difficultés, à des épreuves. Et c'est peut-être là d'ailleurs, en fait, qu'on découvre au cœur de l'épreuve la fragilité, comme ça a été le cas pour le peuple d'Israël.
Et qu'on découvre qu'on peut pas se sauver tout seul, comme on disait.
On peut pas se contenter, non, effectivement, de nos propres forces. On s'aperçoit d'ailleurs qu'on n'en a plus de force.
Oui, oui.
Tout simplement.
Et donc, quand on évoque cette situation-là, que ce soit sous le fait de, je sais pas moi, des preuves de deuil, des preuves de difficultés écrasantes dans la vie, d'avenir bouché, bah, d'où va venir le réconfort? Qu'est-ce qui va permettre de traverser alors qu'un suréquipement... Un suréquipement avec plein de biens de consommation, plein de richesses, ne permet pas de traverser. Voilà une question
oui,
pour nous
oui,
aussi.
Parce que, mais il faut aussi faire cette expérience-là pour savoir qu'on n'est pas seul et que c'est sur le Seigneur qu'on peut compter.
Oui, c'est ça. Mais et du coup, si on peut compter sur le Seigneur, peut-être qu'il faut dire que c'est aussi la présence des frères et des sœurs autour de nous, auprès de nous. Et tout à l'heure, on évoquait l'importance de la présence de l'ange du Seigneur, de la présence divine à travers la colonne de nuée et de lumière.
Oui.
Ben, il y a peut-être ça aussi dans nos vies, quoi, de la colonne de nuée, ce qui nous protège peut-être quand c'est trop périlleux, trop dangereux. Et puis ce qui nous éclaire, qui ouvre un chemin peut-être aussi, hein, donc un chemin de lumière, parce que ça existe, on a fait cette expérience-là, que c'est les autres qui nous ouvrent un chemin de vie.
Oui, c'est souvent une main tendue à laquelle on n'espérait pas. C'est des petits signes qu'on a à repérer aussi dans nos vies au quotidien.
Oui. Alors, une main tendue et inattendue, quelquefois, en fait.
Oui, justement. Oui. Une main inattendue qui se tend.
Exactement. Exactement.
Alors, évidemment, donc, pour revenir à tout ce qu'on a mis en œuvre dans ce récit, en particulier donc, le régime de l'Égypte, qui est le régime de la vie du monde avec son autosuffisance, et puis le régime de la fragilité des fils, hein, puisque c'est important Vous disiez ça tout à l'heure, Marie-Pierre, que les fils d'Israël apparaissent au fond. Enfin, quand l'Égypte meurt, il y a des fils quoi qui peuvent surgir. Hein, donc cette filiation là qui dit que la filiation, elle suppose un père. Hein. Je suppose quand même un lien, donc oui. on n'est pas autogénéré.
Dans l'évangile, en fait, on peut penser à Nicodème, à qui Jésus dit « il nous faut naître d'en haut ».
Oui, voilà, donc cette naissance.
Donc cette naissance que nous recevons aussi par le baptême.
Oui. Alors, donc peut-être que le baptême, on pourrait peut-être en parler un peu plus, Marie-Pierre, parce que justement, est-ce que c'est une traversée, le baptême ?
Oui, finalement, c'est à la suite du Christ qui, lui, a traversé la mort.
Voilà, voilà. Aussi. Alors, donc, le rite du baptême, c'est vrai que maintenant, si on met juste trois petites gouttes d'eau, ça va pas suggérer cette traversée-là. Mais quand on faisait auparavant le baptême par immersion, la personne qui baptisait le frère ou la sœur rentrait dans l'eau et sortait par un autre côté, hein, pour suggérer cette traversée là aussi, mais une traversée qui ouvre à la vie d'une créature nouvelle.
C'est ça, dans le Christ.
Dans le Christ, oui. Alors c'est vrai que on dira aussi dans les évangiles, le fils premier-né, c'est le Christ. Mais c'est vrai que dans ce récit, on a vu qu'en quelque sorte, le fils premier-né, le véritable fils premier-né de l'Égypte, bizarrement, c'est le peuple d'Israël, en quelque sorte. Même si l'Égypte a mis du temps à le laisser sortir de son sein. Hein, voilà. Donc, je pense aussi que l'aveuglement, l'endurcissement, on en a des traces dans tout le Nouveau Testament aussi. On est endurci, on est aveugle, on voit pas que la véritable force est dans la faiblesse du Fils. Et donc, pour les chrétiens, dans ce passage avec le Christ à travers la mort pour la vie, mais la vie nouvelle. Hein, donc voilà. Je pense que c'est un texte fondateur pour les Juifs, mais aussi pour nous, les chrétiens. Et voilà, merci d'avoir été avec nous pour cette traversée du chapitre de l'Exode.